Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du programme en langue française de Radio Prague International. Il y a 30 ans de cela, le vendredi 17 novembre 1989, se tenait à Prague la première des manifestations d'une révolution qui allait aboutir quelques semaines plus tard à la chute du régime communiste dans ce qui était alors encore la Tchécoslovaquie. 41 ans après le coup de Prague, Tchèques et Slovaques retrouvaient liberté et démocratie. Depuis, le 17 novembre est un jour de fête nationale en République tchèque, célébré précisément au nom de cette lutte pour la liberté et la démocratie. Tout au long de cette semaine, nous vous avons proposé sur Radio Prague dans nos émissions, reportages, interviews et autres témoignages rappelant cette suite d'événements qui ont chamboulé une situation géopolitique restée longtemps figée en Europe. 30 ans plus tard, puisque chaque anniversaire est l'occasion d'un bilan, diverses questions méritent d'être posées sur l'évolution du pays depuis cette fameuse année 1989. Alors, deux invités répondront à ces questions. Le premier d'entre eux, Jaroslav Formanek, écrivain, journaliste et traducteur. Jaroslav Formanek, vous avez émigré clandestinement en France en avril 1989, soit donc quelques mois avant la révolution. En 2007, Jaroslav Formanek, vous êtes revenu dans votre pays d'origine. Vous travaillez actuellement notamment pour investigatse.cz, qui est un site de journalisme d'investigation, et aussi pour l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. Alors, Jaroslav Formanek, bonjour.
Bonjour.
Deuxième invité, Pavel Fischer, sénateur depuis maintenant un peu plus d'un an, sans étiquette, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, encore étudiant en 1989. Vous êtes aussi un ancien proche collaborateur de Václav Havel et ancien ambassadeur tchèque en France. C'était en 2003, entre 2003 pardon, et 2010. Pavel Fischer, bonjour.
Bonjour.
Alors messieurs, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons dit en introduction, le 17 novembre est un jour de fête en République tchèque et en Slovaquie. Est-ce un jour de fête aussi pour vous, Jaroslav Formanek?
Comme vous dites, le 17 novembre, c'est le jour de fête. C'est un jour important pour la République tchèque. Pour moi, c'est important aussi parce que ça, il ne faut pas oublier, en même temps, on célèbre ou on commémore le 17 novembre 1939, où le premier système totalitaire qui était là en ancienne Tchécoslovaquie a commencé brutalement à réagir contre les étudiants à Prague. Après, les nazis ont fermé les universités en Tchéquie, donc pour 6 ans, c'était vraiment le système totalitaire absolu. En même temps, on commémore la chute du régime communiste, deuxième système totalitaire. Donc pour moi, ces jours-là est un peu symbolique. Un système totalitaire commence, un deuxième finit.
Pavel Fischer.
Je suis heureux que nous avons entendu ce lien entre 39 et 89. Je crois qu'il est important de rappeler que c'était les étudiants qui étaient en avant-garde, comme s'ils ont pressenti à l'époque que quelque chose allait bouger. Comment je vais passer le dimanche 17 novembre 2019 ? Je serai avec mes enfants qui sont aujourd'hui étudiants et qui me confrontent. Donc ils veulent aller dans les rues de Prague, ils veulent aller à la manif la veille, et puisque je suis confiant que les jeunes ont du pif, je vais essayer de les écouter et aussi un peu de les accompagner quand même.
Que faisiez-vous, Pavel Fischer, justement, ce 17 novembre 1989 ? Vous venez d'évoquer vos enfants. On a évoqué 1939, 1989, l'importance du rôle des étudiants lors de ces deux années. Vous étiez donc, vous aussi, étudiant en 1989 et à Prague.
Oui, j'étais en train de prolonger mes études à l'époque et je faisais partie de toutes les manifs illégales qui ont eu lieu à l'époque, un peu comme mon voisin, Monsieur Formanek. Donc, ce n'était pas la date du 17, ce n'était pas l'unique manif à l'époque. C'était vraiment, ça jalonnait quelque part, déjà l'année 1988-89 ensuite. Le jour même, j'étais de voyage, mais la manif précédente, le 28 octobre, c'était la fête de la République. Là, j'étais dans les rues et on était bien battus et on était bien arrosés par les flics. Donc oui, j'étais quelque part dans le mouvement, mais le 17 novembre précis, j'étais pas sur la ligne du front, quelque part.
Vous avez vécu quelque chose de tout à fait différent, puisque en novembre 1989, vous étiez déjà, Jaroslav Formanek, en France, et ce depuis donc quelques mois.
Oui, ce jour-là, 17 novembre, si je me rappelle très bien, c'était vendredi. Et on était avec mes amis tchèques à Paris, pas loin de la rédaction de la revue Témoignages, revue exilée tchécoslovaque. Et on a beaucoup discuté sur la situation en Europe centrale, parce que le changement a déjà commencé au printemps en Pologne, après ça continuait par l'Hongrie, par l'Allemagne de l'Est, et chez nous, c'est toujours rien passé. Donc on a fini notre soirée, je suis allé chez moi, et le matin, m'avait réveillé mon voisin français, qui m'avait dit, écoute le radio, ça commence chez vous. Donc, je croyais pas. J'étais vraiment sceptique. Je pensais que peut-être dans 2-3 ans, la situation va changer en Tchéquie. Mais dès que j'ai écouté la radio, j'ai appris qu'il s'est passé quelque chose d'important à Prague, vendredi 17 novembre.
On parle néanmoins souvent de la manière d'expliquer aux jeunes générations ce qui s'est passé en 1989. Vous l'avez évoqué, Pavel Fischer, par rapport à vos enfants en début d'émission. Vous qui avez tous les deux vécu en France, comment expliqueriez-vous ces grands changements aux Français et plus généralement aux étrangers?
Comment expliquer? Il suffit d'imaginer un régime qui était déjà sclérosé, mais qui tenait beaucoup à contrôler tout le monde, tous les mouvements. Chaque chose nécessitait des autorisations. Le nombre de tampons était inimaginable à l'époque pour chaque moindre chose. Et si on ne suivait pas les consignes, on était dans l'illégalité, c'est-à-dire en transgression des règles, et du coup vulnérable parce que la police imaginait des choses parfois fabriquées, mais il fallait travailler. Et si on n'avait pas reçu de travail, et c'était souvent pour des raisons politiques, on était poursuivi pour une position illégale sur le marché de travail, puisque chacun avait l'obligation de travailler. Donc le régime créait des situations complètement absurdes, c'est-à-dire vous êtes dans un pays de Kafka, mais dans le XXe siècle... À la fin du XXe siècle, vous avez un régime qui essaie totalement de contrôler tout. La jeunesse, les anciens, le calendrier, l'espace public, les nouvelles. Et donc, c'est par là qu'on commence quelque part mon récit si mes enfants commencent à me poser des questions. L'autre jour, j'ai eu la tâche facilitée parce que un des photographes de l'époque a affiché ses photos de reportages prises pendant les manifs irrégulières et illégales.
Il s'agit de l'exposition de Chibik.
C'est ça.
Chibik qui se tient actuellement à Prague.
Et il s'est trouvé que sur une des photos, c'était aussi moi-même. Donc j'avais la tâche facilitée. J'ai dit aux enfants, voilà à quoi rassemblaient les rues de Prague qui étaient désertées parce que les forces de l'ordre les ont complètement quadrillées et on était quelque part à la fuite. Donc voilà, c'est difficile à transmettre, mais je crois que en famille et parmi les amis, nous avons quand même beaucoup d'ambassadeurs pour leur expliquer que vivre en liberté, c'est quelque chose, c'est une chance.
Vos enfants et les amis de vos enfants sont-ils demandeurs de ces témoignages?
Oui, je crois que ce n'est pas une obsession de comprendre toutes les nuances et tous les détails, mais ils savent très bien ce que les communistes et le Parti communiste en particulier faisaient dans notre pays et ce que leurs collaborateurs, ce dont ils étaient responsables. Ce qui est un peu troublant, c'est que dans la période actuelle politique, nous avons un gouvernement à la tête, un premier ministre qui est quand même sur la liste de ceux qui collaboraient avec la Stasi tchèque, avec STB, et il s'appuie sur une majorité, entre autres, composée du Parti communiste. Donc nous sommes dans une situation qui est vu les événements de 89, qui nous met quand même dans une obligation de nous expliquer, déjà nous autres, les Tchèques.
Environ un Tchèque sur trois dans la population actuelle est né après 1989. Pour beaucoup de ces jeunes, âgés donc de moins de 30 ans, cette révolution peut sembler, peut apparaître aujourd'hui comme peut-être déjà de l'histoire ancienne. Est-ce là, selon vous, Jaroslav Formanek, une évolution naturelle, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise transmission de l'histoire, que ce soit dans les écoles ou peut-être dans les familles?
Moi, je crois que c'est les deux, parce que, je vous dis, mon expérience, moi, je suis né 15 ans après la fin du Deuxième Guerre mondiale, et pour moi, c'était l'histoire tellement lointaine, tellement éloignée, que je comprends que pour les gens tchèques qui sont nés après le changement de système en novembre 89, aussi éloigné comme pour moi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que qui concerne l'éducation, l'école, ça je peux pas vous dire parce que moi je connais le système éducatif tchèque, mais dès que je parle avec mes copains qui ont encore leurs enfants à l'école, ils sont pas du tout contents avec ce système. J'ai pas de prof, ce sont seulement les choses que les gens me disent, mes copains. Mais ils sont mécontents parce que il paraît que l'éducation de l'histoire contemporaine tchécoslovaque s'arrête après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'immense absence de notre histoire récente est pas expliquée aux enfants, aux scolariés. Donc après, peut-être c'est le problème que vous aviez demandé, est-ce que c'est normal ou non?
Pavel Fischer, est-ce que vous avez également le même sentiment, à savoir que dans les écoles, on ne met pas suffisamment l'accent sur cette seconde moitié du XXe siècle, sur ce qui s'est passé en 89, parce qu'on l'a dit aussi au début de cette émission, cette révolution reste quand même pour beaucoup, une grande majorité de Tchèques, ça reste perçu comme un événement positif. Il n'y en a quand même pas beaucoup dans l'histoire de la Tchécoslovaquie au XXe siècle.
Si je regarde la situation en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Ouest, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des efforts considérables qui durent jusqu'aujourd'hui d'enseignement d'une certaine culture civique, citoyenne. Et ces efforts portent des fruits. Cette partie de l'Allemagne est différente de celle qui a été façonnée à l'idéologie communiste totalitaire, c'est-à-dire l'ex-Allemagne de l'Est. Et je trouve que nous avons besoin de revisiter les institutions qui travaillent sur l'espace public chez nous pour tirer des leçons. Car on ne peut pas laisser l'évolution au libre marché des idées et de fausses idées, surtout aujourd'hui lorsque nous savons que nous sommes sous attaque organisée des informations fausses produites presque sur la chaîne industrielle qui nous attaque par un marketing prépayé en ligne ou différemment. Donc je crois que nous avons besoin d'un civisme, d'une citoyenneté, d'un réveil et aussi d'une culture qui serait accompagnée institutionnellement dans notre pays, c'est-à-dire beaucoup plus que une simple éducation à l'école primaire, par exemple. Il faut travailler sur ces questions-là la vie durant, et c'est peut-être là l'un des défis de notre pays, de la République tchèque d'aujourd'hui, de revisiter l'espace public. Est-ce qu'il y a suffisamment de programmes et d'institutions qui s'occupent d'un réveil citoyen pour que les gens ne se laissent pas acheter, ne se laissent pas prendre dans des rouages qui les amènent dans une sorte de dépendance sans issue? La liberté, la lutte pour la liberté, c'est quand même quelque chose à acquérir et à conquérir aussi aujourd'hui.
Ceci dit, n'est-ce pas aujourd'hui une certitude pour, aux yeux de beaucoup de Tchèques, cette liberté?
Oui, mais regardons ce qui se passe dans le monde. Le monde en ligne produit de telles dépendances et de telles nouvelles logiques qui n'existait pas autrefois, mais nous avons peut-être encore davantage aujourd'hui de besoin de cet essor citoyen proprement dit.
Yaroslav Formanek, vous avez vécu les années de transformation en Tchécoslovaquie de l'extérieur, puisque donc vous êtes resté en France. Quel regard portez-vous alors dans les années 1990 et au début des années 2000, quand vous étiez encore en France, sur le processus de transformation en Tchécoslovaquie?
Transformation économique ou sociale?
Économique, sociale. Ouais.
Bah, écoutez, d'abord, pour moi, c'était un grand espoir, parce que moi, je pensais qu'après le changement du système, va tout de suite commencer à réagir le gouvernement issu démocratique. Ce qui s'est passé, pas très clairement, parce que après 3 semaines du 17 novembre, ou je crois que c'était à la fin, ou au début, je me rappelle plus maintenant exactement la date, peut-être au début de l'année 90, le nouveau gouvernement qui est sorti était composé par 2 membres du Parti communiste, c'est-à-dire le premier ministre tchécoslovaque, monsieur Chalfa, était ancien communiste, et le ministre des Défenses, je crois monsieur Vacek, c'était aussi un général communiste qui a fait sa carrière dans le système depuis des années 50. Donc dès que j'ai vu ça des France, je me suis dit c'est quand même bizarre. Parce que on n'a pas rompu à 100%. Parce que si on condamne ces régimes-là comme le régime criminel, le régime en justice illégale, donc on peut pas continuer à ouvrir les bras pour les partisans, pour les membres du parti. Donc, depuis le début, j'ai commencé à méfier vers ces transformations plutôt sociales ou politiques. Dès qu'a commencé la transformation économique, moi, écoutez, je suis pas économe, donc je peux pas vous parler sur l'économie, mais je pense que les propos que disait dans l'époque monsieur Václav Klaus, responsable de la transformation économique, que tout le monde en Tchécoslovaquie avait les mêmes chances, c'est pas vrai, parce que tout le monde avait pas la même chose. Il y avait les gens qui étaient favorisés par leur fonction, par leur attachement vers l'histoire, vers le passé, vers le système communiste, parce que le système communiste était toujours là, il était toujours présent sur le système financier, bancaire. Dès que ça commençait à un peu changer, après ça revenait très vite un peu dans le système capitaliste. Mais à partir de ces moments où les gens ont commencé à sentir qu'ils sont défavorisés, les gens ordinaires, que du nouveau système profite surtout les gens issus d'anciens systèmes, je crois là ont commencé les difficultés qui nous suivent jusqu'à présent.
Pavel Fischer, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et finalement, la conséquence de ce qu'on vient d'entendre de Yaroslav Formanek n'est-elle pas que nous avons aujourd'hui un Premier ministre, Andrei Babiš, qui est un ancien collaborateur de la STB, à savoir donc la police secrète du régime communiste, et aussi un parti communiste qui est le seul en Europe, parmi les pays d'Europe centrale, à ne pas avoir été réformé, à ne pas s'être réformé après 1989, et qui est aujourd'hui au pouvoir, puisque le gouvernement qui a été mis sur pied par Andrei Babiš ne pourrait pas exister, ne pourrait pas fonctionner sans le soutien des communistes.
Je crois que il y avait effectivement une partie d'acteurs de l'époque de la nomenclatura qui étaient engagés dans l'économie grise, et ils se sont vite transformés en capitalistes et en nouveaux riches plus tard. Donc c'est effectivement un changement qui a été vécu comme injuste, parce que on a tout simplement légalisé les profits illégaux que ces gens-là ont réussi à accaparer au-delà du cadre légal. Mais Vous avez un problème plus large. Comment faire la justice au lendemain d'un régime totalitaire sans exagérer, sans faire vraiment la violence publique? Comment faire la justice que dans la situation où la société était quand même éclaboussée? Il y avait plusieurs générations de communistes, certains qui étaient les durs, durs, jusqu'au dernier moment, certains qui se sont rompus, qui ont rompu les liens avec l'idéologie communiste en 68, par exemple, lorsque les chars du pacte de Varsovie ont ébranlé les espoirs du printemps de Prague. Donc, comment être juste et ne pas être trop tendre et ne pas être trop violent dans une situation où quand même la majorité des gens se sentaient éclaboussés par le système? Et le résultat, nous le voyons aujourd'hui, et je suis heureux qu'il y ait des institutions qui gardent la mémoire, qui travaillent l'histoire récente à ce que nous ne perdions pas les traces des agissements et des archives, notamment de ce qui s'était passé. Et pour les communistes en particulier, ils n'ont pas fait deuil de leur passé. Ils sont quelque part restés attachés par le cordon ombilical jusqu'aux années 50, 60, des années meurtrières aussi dans notre pays. Et c'est ça ce qui est un peu troublant. C'est-à-dire, ils n'ont même pas cherché de changer d'appellation. Ils s'appellent toujours communistes et ils n'ont pas fait le deuil des injustices commises sur la population ici. Et là, il faut être très sévère et c'est pour ça qu'il faut les séparer politiquement du jeu politique parlementaire. Et c'est exactement ce que Miloš Zeman, le président d'aujourd'hui, et le premier ministre, Andrej Babiš, ont transgressé comme règle, puisque avec les voix des communistes et leurs électeurs, ils se sont fait élire.
Les questions que vous avez évoquées au début de votre réponse, à savoir s'il fallait poursuivre, punir, condamner toutes les personnes qui avaient participé à l'ancien régime, est-ce que c'était des questions que se posait aussi Václav Havel? Alors on évoque Václav Havel parce que il incarne forcément les changements de 1989, notamment aux yeux à l'étranger. Vous, Pavel Fischer, avez été un proche collaborateur de Václav Havel lorsqu'il était président, et ce pendant près de 8 ans. Est-ce que lui aussi, ces questions étaient une préoccupation? Et que reste-t-il aujourd'hui, selon vous, de son action et de ses différents mandats de président?
Cette interrogation, comment gérer, comment prendre en compte la justice et la responsabilité individuelle de chacun, c'était pour lui quand même pesant, parce qu'il n'était pas myope, il n'était pas dupe, et il savait que la question va l'accompagner jusqu'à la fin de ses mandats. Néanmoins, son explication qu'il donnait volontiers à ceux qui le challengeait, qui le défiait là-dessus, c'était imaginer une société qui a été ébranlée par 40 ans de communisme. Vous n'avez pas d'élite, vous n'avez pas des spécialistes qui auraient à l'époque l'expérience suffisante pour gérer un ministère, pour écrire des lois, pour enseigner, pour donner le « là » au gouvernement ou bien aux institutions. Vous avez eu quand même une société qui était coupée, qui était ébranlée, et toutes les élites possibles étaient broyées dans les prisons dans les années 50 et 60. Donc il ne faut pas non plus se prétendre qu'il y avait à l'époque une équipe B qui était assise sur les bancs et prête pour le combat. Ce n'était pas vrai. Néanmoins, il fallait faire des compromis, et dans ces compromis, il fallait choisir des gens. Et donc, le Premier ministre de l'époque était nommé un ancien membre du Parti communiste. Peut-être il avait encore sa carte à la poche. Et c'est ça qui a entaché peut-être cet ethos de 1989 à Prague en particulier.
Nous sommes maintenant 30 ans après, en 2019, selon une enquête de l'organisation Pamiat Naroda, Mémoire de la Nation, environ une personne sur trois pense que l'on vivait mieux avant En tchèque, ça veut dire avant 1989. Que vous inspire, Jaroslav Formanek, ce chiffre?
D'abord, c'est l'enquête. L'enquête, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment exact, est-ce que les résultats sont exacts, mais c'est-à-dire exact sur toute la population. Mais ça, quand même, c'est le signe de quelque chose, c'est-à-dire les gens qui sont nostalgiques pour l'ancien système. Moi, je leur comprends d'un point de vue parce que souvent, ce sont les gens âgés qui ont vécu ce système comme ils étaient jeunes. Donc, jeunesse, c'est quelque chose de merveilleux dans la vie de chacun. Et on se souvient toujours comment c'était très très bien, comment on était jeune, etc. Mais de l'autre côté, il faut dire aussi que c'est nostalgique par mes expériences, parce que j'ai parlé avec pas mal de gens à la campagne, ou soit à Prague, ou soit dans une autre ville. Ils sont nostalgiques par les certitudes. Ils disent toujours, on a perdu la certitude. C'est que c'est la certitude. Certitude qu'on a eu le travail. Mais comme disait M. Fischer, c'est cette chômage qui n'existait pas en Tchécoslovaquie socialiste. C'était artificiel. On était obligé de travailler. Donc, les certitudes d'avoir le soin du médecin gratuit, soin des hospitalisations gratuites, c'est vrai, mais dans quel état, dans quel niveau? On ne peut pas faire les comparaisons avec le niveau des hôpitaux tchèques aujourd'hui et avant. Donc, je crois que c'est la mélange dans leur tête, que ils savent pas ce que c'est la liberté, mais ils veulent toujours les certitudes. Et l'ancien système leur donnait leurs certitudes.
Dernière question, Pavel Fischer. Quel regard portez-vous sur la situation aujourd'hui en République tchèque et l'évolution du pays depuis 30 ans?
Il y a de très bonnes nouvelles qu'il faut aussi partager. J'ai une nouvelle qui est, à mon avis, tout à fait intéressante dans ce contexte de 1989 que nous évoquons aujourd'hui. Et c'est justement l'initiative Paměť národa. C'est l'initiative qui essaie de déchiffrer les témoignages des acteurs directs de l'époque, les capter sur audio ou sur le texte et les transmettre ensuite. Et tout de suite, on voyait qu'on avait nos héros de l'époque, qu'il y avait des gens qui étaient dignes, qui se dressaient contre le régime, qu'il y avait un vrai sursaut de courage à l'époque, et qu'il y avait aussi des collaborateurs purs et durs, qu'il y avait aussi des bourreaux, qu'il y avait aussi des flics qui transgressaient complètement la loi. Et je crois que cette revisitation de notre propre histoire nous est salutaire, parce que elle va quelque part à l'encontre de cette nostalgie de la jeunesse que nous avons évoquée, et elle permet de nous déchiffrer les lignes entre le bien et le mal qui passent quand même aussi par l'action de chacun de nous. Et là, dans ce sursaut citoyen, dans ce réveil que nous pouvons revivre aussi en novembre 2019, je vois aussi les signes de quelque chose de positif que nous pouvons faire ensemble et aussi rapidement que possible parce que les témoins disparaissent petit à petit.
Voilà, nous touchons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Donc cette émission un peu spéciale, puisque diffusée pour le 30e anniversaire de ce que les Tchèques appellent l'Istopad, littéralement novembre, donc qui marque la première manifestation qui aboutit à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie. Il y a 30 ans de cela, Pavel Fischer, merci beaucoup. Jaroslav Formanek aussi. Bonne célébration.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi.